Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Processus de paix dans l'est de la RDC, la reprise des négociations entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 sous la médiation du Qatar est attendue cette semaine à Doha. Mais pendant que la diplomatie s'active à Doha, la tension demeure vive sur le terrain, au nord et au sud Kivu, où les deux camps continuent de se renforcer. L'Agence nationale de l'électrification de services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre affirme que l'objectif de 62% de taux d'accès à l'électricité d'ici 2030 demeure réaliste. Malgré les difficultés financières, cette structure de l'État annonce avoir réalisé 53% des projets contre un taux de financement global de 28%. L'invité de ce journal, c'est Madame Véronique Mokoto, jeune membre du cabinet du ministre des Finances. Dans une conférence débat co-animée le week-end à Kisangani avec le président du conseil des jeunes de la province de la Tchopo, elle exhorte les politiciens à ne pas manipuler les jeunes et aux jeunes de ne pas se laisser manipuler. Mesdames et messieurs, bonjour. Processus de paix dans l'est de la RDC, la reprise des négociations entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 sous la médiation du Qatar est attendue cette semaine à Doha. Selon plusieurs sources, les deux délégations devraient tenter de lever certains points de blocage, notamment la question de l'échange des prisonniers, considéré par la rébellion comme l'une des conditions clés à toute avancée des discussions. Mais pendant que la diplomatie s'active à Doha, la tension demeure vive sur le terrain, au nord et au sud Kivu, où les deux camps continuent de se renforcer. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Les délégations du gouvernement et de l'AFC M23 sont attendues cette semaine à Doha, au Qatar, pour une nouvelle phase de discussions sous la médiation qatari. Selon nos informations, les pourparlers porteront sur l'échange des prisonniers, l'un des points majeurs du blocage du processus. Un mécanisme a déjà été signé pour confier au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, les rôles d'intermédiaire neutre chargé d'identifier, de vérifier et de faciliter la libération des détenus. Mais jusqu'ici, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Sur le terrain, la situation demeure tendue. Dans le nord Kivu, environ 7000 combattants formés par la rébellion ont achevé leur entraînement à Tchanzu le 1er octobre dernier. Des semaines plus tôt, un nombre similaire avait été présenté à Rumangabo, parmi eux d'anciens FRDC et de Wazalendo. Plusieurs sources évoquent une possible préparation d'offensive contre des agglomérations stratégiques du Nord et Sud Kivu. La société civile redoute une nouvelle escalade de la violence dans ces deux provinces. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Sur place à Beni, les FARDC ont présenté au public ce week-end 48 présumés combattants et collaborateurs de l'AFC M23 et des ADEF, dont un agent de renseignement. Ces individus ont été arrêtés il y a quelques semaines dans la région de Beni et Lubero, au nord Kivu, avec plusieurs armes et tenues militaires, selon l'armée. 15 anciens otages des ADEF ont également été libérés et remis à la société civile. L'armée a appelé la population à soutenir ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. L'objectif de 62% de taux d'accès à l'électricité d'ici 2030 demeure réaliste selon l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Malgré des difficultés notamment financières, cette structure de l'État a annoncé ce samedi lors d'une conférence de presse à Kinshasa avoir réalisé 53% des projets contre un taux de financement global de 28%. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le nombre de projets en cours d'exécution sous la mission de l'Agence nationale de l'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain passe de 55 à 65 répartis sur 53 territoires des 45 que compte la RDC, mais également à Kinshasa, Mbujimayi et Kananga. Parallèlement, le nombre d'ouvrages finalisés atteindra désormais 26 à la fin du mois d'octobre courant grâce à l'achèvement imminent des 4 nouveaux ouvrages à Bassankusu, Bongandanga, Chimbulu, Kalamba, permettant ainsi d'impacter plus d'un million de personnes. Ces résultats ont encore besoin de plus de soutien financier du pouvoir public pour finaliser l'ensemble des projets, comme indique Cyprien Moussima, directeur général de l'ANSER.
Nous avons franchi des étapes décisives dans la mesure où les projets actuels en cours d'exécution s'élèvent à 65, ce qui couvre 53 territoires. C'est quasiment le tiers, près d'un 145 territoires.
Pour atteindre 63% des taux d'accès à l'électricité en RDC d'ici 2030, l'ANSER compte relancer les travaux de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Ce projet, existant depuis plusieurs années, devra alimenter la ville de Kananga et ses environs au Kasaï central.
Au Kasaï oriental, bonne nouvelle pour les habitants de Mbujimayi. Les poteaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL, qui se trouve sur l'avenue Inga, un tronçon de la RN1, en plein centre-ville de Mbujimayi, sont en train d'être délocalisés depuis mercredi dernier. C'est pour permettre à l'entreprise Grec 7 d'achever les travaux de modernisation de cette artère qui aura bientôt 4 bandes, dont 2 allées et 2 retours. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les techniciens de la Société nationale d'électricité SNEL sont à pied d'œuvre. Les travaux de délocalisation de l'ancienne ligne électrique ainsi que les poteaux qui la transportent ont débuté depuis mercredi dernier sur l'avenue Inga en Mbujimayi. Cette ligne électrique part du rond-point Petrombo jusqu'au point Lubilangi à l'entrée de la ville. Déjà plus de 40 nouveaux poteaux métalliques ont été implantés à partir du rond-point Petrombo jusqu'à la poste. Ces poteaux sont visibles à quelques mètres des anciens poteaux en béton armé qui seront progressivement détruits, affirment certains techniciens. Selon Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL, la fourniture en énergie électrique sera perturbée pour de courtes durées au cours des travaux.
Il y aura toujours des interruptions à tout moment. Et après les travaux, on rétablit l'électricité sur la ville. Et faire intervenir les camions gris, on coupe l'électricité. Si on estime qu'il n'y a pas un endroit où ça peut bloquer le travail, on laisse l'électricité. C'est pas tout, on va commencer à couper.
Signalons que la délocalisation de l'ancienne ligne électrique de la SNEL permet à l'entreprise Grec 7 d'accélérer les travaux de modernisation de l'avenue Inga, qui aura 4 bandes, dont 2 allées et 2 retours. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, pénurie d'eau potable dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, à Bumbu, Selembao et Ngiringiri. La situation devient compliquée et ces populations lancent un cri d'alarme aux autorités locales pour leur venir en aide. Reportage Rachel Kalombe.
À Bumbu et Ngiringiri, leur souffrance remonte de plus de 3 semaines depuis que l'eau de la régie des eaux ne jaillit plus de leur robinet. Ces habitants vivent sans eau. Dans la commune de Selembao, les habitants de ces coins racontent qu'ils sont en manque d'eau depuis 2 semaines. Les femmes vendeuses des Malewa se disent bloquées dans leurs affaires qui demandent l'utilisation d'une grande quantité d'eau. Dans les rues de la commune de Bumbu et Ngiringiri, nous voyons des mères et les enfants avec les et bidon jaune pour aller chercher de l'eau. Madame Chloé, dans la commune de Ngiringiri, nous relate ses peines.
Nous sommes dans la commune de Ngiringiri, sur l'avenue Yolo. Nous souffrons avec les problèmes d'eau. L'eau est devenue un luxe pour nous. Nous demandons à l'État congolais de venir vraiment nous aider.
À Bumbu, une femme ménagère ajoute que...
Ici, nous sommes dans la commune de Bumbu, direction Asosa. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes privés d'eau. On ne sait pas ce qui se passe réellement, mais on est vraiment en difficulté parce que la majorité des personnes dans le coin n'ont pas accès à l'eau. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de se faire un forage. Pour ceux qui travaillent, ce n'est pas tout le monde qui va se réveiller le matin pour aller chercher de l'eau. Et ceux qui reviennent tard ont des difficultés à avoir de l'eau dans leur maison.
En effet, ces habitants espèrent avoir un secours de la régie des eaux pour voir l'eau couler de nouveau dans leur robinet.
Du côté de l'Ituri, par contre, plus de 5000 habitants du village d'Ibara, à une dizaine de kilomètres de Bunia et de sa périphérie, retrouvent le sourire. Ils ont désormais accès à l'eau potable. Une initiative de l'association provinciale des scouts qui a construit un puits aménagé avec une borne fontaine d'une capacité de 3000 litres. Une action saluée par les bénéficiaires qui jusque-là consommaient les eaux souillées des rivières avec de graves conséquences pour leur santé. Isaac Remoyope, reportage.
Un nouveau puits d'eau potable profond de 40 mètres, équipé d'une pompe électrique et d'un groupe électrogène relié à un réservoir de 3000 litres, a été remis mardi aux communautés locales. L'ouvrage a été construit grâce à la contribution des scouts qui ont aussi servi de main-d'œuvre. Objectif, répondre aux besoins des habitants qui parcouraient des longues distances pour puiser l'eau de la rivière, une situation à l'origine des maladies et d'insécurité, surtout la nuit. François Kassereka, commissaire provincial des scouts.
Nous avons construit un borne-fontaine là où la population peut venir aisément puiser de l'eau. Aux mamans, les enfants, jeunes filles qui faisaient de longues distances pour aller chercher de l'eau, ils avaient les difficultés par rapport à l'insécurité avec l'activisme des groupes armés.
Pour les bénéficiaires, cette addiction d'eau met fin à de nombreuses souffrances. Élèves arrivant en retard à l'école, filles exposées aux violences sexuelles en quête d'eau ou encore femmes âgées épuisées par la distance et le poids des bidons. L'une d'elles exprime sa joie.
Je suis très contente. J'utilisais 3 bidons d'eau par jour. Mais les transporter, c'était très pénible pour moi qui suis avancée en âge. Aujourd'hui, l'eau coule dans notre village. Les scouts, que Dieu vous bénisse.
L'association des scouts appelle le gouvernement et les partenaires volontaires à soutenir l'extension de cette initiative dans d'autres villages où l'accès à l'eau reste un défi majeur. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
De nombreux habitants de Goma se disent victimes d'une escroquerie à travers une association des microfinances qui fonctionne par pyramide. D'après ces habitants, après avoir déposé leurs fonds, nombreux d'entre eux n'arrivent plus à les récupérer. Ces blocages de fonds de la population présentent déjà des répercussions sur l'économie locale, déclarent plusieurs personnes à Goma. Des voix s'élèvent de plus en plus dans la ville pour dénoncer une arnaque au vu de tout le monde. Ces habitants implorent l'implication des autorités à tous les niveaux afin qu'ils récupèrent ne fût-ce que leurs fonds principaux. Plus de détails avec vous, Lukinzao.
Dénommée Niendawaragi, cette structure a ouvert ses portes il y a quelques mois dans la ville de Goma où elle compte déjà des centaines de membres. Ses habitants ont été attirés par la promesse de voir leurs fonds être multipliés en peu de temps via un système de parrainage, disent-ils. Le président du conseil des jeunes en commune de Karisimbi dénonce une arnaque contre la population déjà très vulnérable. Claude Rugo.
C'est un réseau qui est venu sous forme d'un microcrédit. C'est un réseau qui avait sensibiliser aux gens, disant que vous venez y déposer 250 dollars, après une semaine ou 2 semaines, on te fait 500 dollars. 2 semaines après, on te fait 1000 dollars. Vous venez avec 2000 dollars, une semaine ou 2 semaines après, on te fait 20 000 dollars. Les citoyens de Goma, Massi, Sirutchuru, Nirago, ont commencé à y déposer leur montant. C'est vrai, certains avaient eu ses intérêts, mais ça fait maintenant 2 mois que les gens n'ont plus ses intérêts.
Les conséquences se font déjà sentir, notamment pour certains parents, parce qu'ils ont mis toutes leurs économies dans cette affaire. Tous nos efforts pour contacter les directeurs de cette structure pour avoir sa réaction n'ont pas abouti. Néanmoins, lors d'une récente adresse à ses clients, ses responsables ont rassuré ses clients que son institution ne connaît aucun problème de fonctionnement.
Nous revenons à Kinshasa pour vous faire découvrir le quartier Terre Jaune et ce qui se passe dans ces quartiers-là. Suivez.
Dans cette partie enclavée de la ville, les habitants vivent dans le noir, privés d'un service de base indispensable. C'est un beau quartier, on est tranquille ici, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de courant, a fait savoir une habitante de ce quartier.
La principale difficulté ici, c'est le manque d'électricité. C'est pourtant un beau quartier, mais sans courant, tout devient compliqué. Nous demandons aux autorités de nous aider à avoir l'électricité. Ça serait vraiment une bonne chose.
Dans un contexte où d'autres coins sont électrifiés, les habitants des Terres Jaunes et Essanga dénoncent une marginalisation et appellent les autorités à réagir. Un autre habitant crie à l'injustice.
Nous sommes dans le noir. Nous avons besoin que l'électricité soit mise à notre disposition, comme dans d'autres quartiers.
Un cri de détresse que ces habitants espèrent voir enfin entendu par les autorités.
Actualité internationale.
Ouverture ce lundi de la 2e et dernière semaine de campagne avant le scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun. Paul Biya, 92 ans, brigue un 8e mandat consécutif après 43 ans au pouvoir. Face à lui, sur les bulletins, 11 candidats dont 2 ont apporté leur soutien à l'ancien ministre Bello Bouba Maïgari. Côte d'Ivoire, l'ancien patron des Crédits Suisses devait incarner la renaissance du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, RDA. Le successeur désigné d'Henri Konabédier ne participera finalement pas à la présidentielle du 25 octobre prochain.
L'invité.
Madame Véronique Moncoto, jeune membre du cabinet du ministre des Finances, exhorte les politiciens à ne pas manipuler les jeunes. En même temps, elle demande aux jeunes de ne pas se laisser instrumentaliser. Elle leur a lancé cet appel ce week-end à Kisangani, à l'occasion d'une conférence débat co-animée avec le président du conseil des jeunes de la province de la Tchopo, Perino Ebondo. Pour en savoir plus sur les stratégies, les motivations ainsi que les conséquences de cette manipulation, Véronique Moncoto s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Madame Véronique Moncoto, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'animer une conférence sur la manipulation des jeunes par les politiciens, enjeux et perspectives. Êtes-vous sûr que les jeunes sont manipulés?
Oui, les jeunes sont manipulés. C'était un constat qui a été fait. Il y a des politiciens qui ont créé des groupes et des groupes pour être derrière eux. Le but principal, c'est pour garder leur pouvoir. Une fois une autorité mise en place dans la province, première des choses, c'est de chercher d'abord à créer un groupe à lui seul. Au lieu de mettre des groupes pour revendiquer les intérêts de la province tout entière, il y a des politiciens qui ont créé leur groupe. Ils entretiennent le groupe en question pour protéger leur pouvoir.
Selon vous, quels sont les facteurs qui rendent les jeunes vulnérables à la manipulation?
On a évoqué des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'emploi. Ce sont les éléments moteurs qui ont été soulevés par ces jeunes-là. Mais nous, on avait dit, malgré ça, s'il y a le manque d'emploi, on doit créer l'emploi pour la jeunesse. Au lieu de créer les groupes-là pour protéger les pouvoirs des autorités en ville.
Quelles sont les méthodes ou les stratégies utilisées pour instrumentaliser les jeunes?
Ils ont créé leur groupe. Chaque autorité a son groupe et on appelle ici le groupe de pression. Donc si une autorité est là, même s'il ne fait rien, donc il sait qu'il a derrière lui un groupe qui va le protéger. C'est ça le mécanisme de manipulation. Alors pour maintenir ton pouvoir, tu dois entretenir ces groupes. Mais il y a des autorités qui se permettent même de payer ces groupes-là chaque mois mensuellement. Les jeunes qui ne travaillent pas, mais ils sont là seulement pour semer des désordres s'il ne fait rien. Il y a d'autres jeunes qui peuvent revendiquer, mais il y a les groupes là, créés par ces autorités, qui viennent étouffer même les mouvements, même les dénonciations qui pourraient être utiles pour les jeunes, pour la province. Mais il y a des groupes là qui étouffent des fois.
Madame, les réseaux sociaux et les médias jouent-ils un rôle dans ce phénomène?
Oui, les réseaux sociaux étaient là pour nous aider à échanger nos idées et nos problèmes. Mais il y a d'autres qui utilisent ces réseaux sociaux abusivement. Il y a des groupes, une fois publiés, que ce soit mauvaise ou vraie information, il n'y a pas moyen de vérifier et le message sera vulgarisé beaucoup plus sur les réseaux sociaux sans être vérifié.
Quelles sont les conséquences de cette manipulation sur le plan social et même politique?
Les conséquences sont légion. On voit qu'il n'y a rien qui se fait dans la ville. Donc les autorités sont là même s'ils ne font rien. Donc ils se rendent sûrs qu'ils ont des groupes pour les protéger. La conséquence c'est qu'au lieu d'évoluer, nous reculons. Rien ne marche et personne n'en parle parce qu'ils sont tous corrompus. Au lieu d'appeler sa manipulation, il corrompt la jeunesse. Alors c'est ce qui fait enfoncer encore davantage la province.
Madame, comment les jeunes peuvent se prémunir contre la manipulation?
On a les soucis de notre province et non les soucis de nos votes. C'est ce que je dis à la jeunesse. Si un politicien te propose quelque chose pour garder ou pour protéger son pouvoir, il faut éviter. Dites à ces politiciens que tu n'es pas là pour moi, individu, mais tu étais élu ou tu étais voté pour la province et pour la jeunesse.
Pour terminer, madame, quel message à la fin de cette conférence adressez-vous aux politiciens et aux jeunes eux-mêmes?
N'utilisons pas cette jeunesse parce que la jeunesse qui constitue la majorité de la population. Une fois la jeunesse est affaiblie, rien ne marchera dans une ville ou dans une province. Évitez d'utiliser la jeunesse comme instrument de garde, comme leur arme privée à eux, mais aidons la jeunesse à évoluer. Si les jeunes là que vous utilisez abusivement, s'ils sont bien entretenus officiellement d'une manière légale, ça sera pour l'intérêt de la province au lieu d'être pour les convertir des autorités qui ne travaillent pas. Laissez pas manipuler par les politiciens. Si nous avons les soucis de notre province, si nous avons les soucis de nos frères et sœurs, on ne doit pas accepter un salaire pour couvrir les autorités dans des bêtises. Mais s'ils proposaient ces salaires-là, qu'ils fassent des projets pour les jeunes, que les jeunes suivent des formations. Pour contourner cette manipulation, ils seront autonomes. Au lieu d'étendre la main chez les politiciens, ils seront beaucoup plus autonomes.
Madame Mokoto, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invitée Véronique Mokoto. Elle s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé du matin qui a connu la coordination éditoriale de Jean Gandou Kabongo, supervisée par Lievine Mbouingavoubou, Pierre Diassinois, la mise en onde. Vous pouvez encore réécoutez ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur la radio de la paix avec Christelle Fritti-Mangois.